Chapitre 16, une lettre recommandée. Les journaux tirèrent encore ce jour-là des éditions spéciales à profusion. Les petits canards du soir s'en donnèrent à cœur joie, inventant les incidents les plus plaisants et les plus grotesques, donnant des détails aussi extraordinaires que précis sur la façon dont Rouletabille s'était débarrassé de ses gardiens. Le courrier de 5 heures affirma qu'on avait vu Rouletabille se promenant en plein boulevard sans être inquiété. Le Paris laissa entendre que rien de tout cela ne serait arrivé sans la complaisance du gouvernement qui avait tout intérêt à ménager non point le reporter de l'époque, mais l'époque même, journal à très gros tirage. Quant à l'époque, ce journal relatait les faits sans aucun commentaire. Il en fallut point davantage pour que toute la police fût sur pied à la recherche de Rouletabille. Je reçus moi-même un agent de la sûreté qui me posa quelques questions auxquelles je ne pus répondre. À tous, je disais que je regrettais cette évasion. Mon domicile était strictement surveillé. Vers 7 heures du soir, ayant soulevé le rideau de ma fenêtre, je vis sur le trottoir en face 2 silhouettes sur la nature desquelles je ne pouvais me tromper. Je laissai retomber mon rideau en haussant les épaules. Hein, la police sera toujours aussi bête, pensais-je tout haut. C'est bien ici le dernier endroit où Rouletabille viendra se faire prendre. Et là-dessus, j'essayai de me mettre au travail, quand mon domestique vint m'annoncer que le facteur avait une lettre recommandée à me faire signer. Je lui dis de le faire entrer. Le facteur entra, me tendit une lettre que je regardai machinalement. Je fus étonné de ne point voir sur l'enveloppe aucun des signes habituels. Enfin, la suscription en était des plus singulières. À mon bon ami Sinclair et mon adresse. J'avais reconnu l'écriture de Rouletabille. Je regardais le facteur qui se tenait immobile avec sa boîte sur le ventre, toute débordante de rouleaux et de paquets qu'il avait peine à maintenir. « Mais cette lettre n'est pas recommandée, » dis-je étonné. Il ne me répondit pas. De plus en plus intrigué, j'ouvris l'enveloppe. Il y avait là-dedans une feuille de papier blanche que je tournais et retournais de toute façon. Ah, ça, m'écriai-je, mais quelle est cette plaisanterie? Chut, Sinclair, pas si fort, me fit le facteur. Je me levai, étourdi. Cette fois, j'avais reconnu la voix de Rouletabille. Mais quant à reconnaître Rouletabille lui-même sous cet uniforme, sous cette barbe poivre et sel qui lui mangeait la moitié du visage, sous ce képi crasseux dont la visière lui descendait jusque sur les yeux, ah non, non. Et cependant, c'était bien lui. Il déposa un instant sa boîte, me prit la main, me la serra fortement et me dit « Tu me crois pas coupable, toi ?» Je fus lâche, je répondis « Ma foi, je ne sais plus, mais pourquoi t'es-tu évadé ? Et pourquoi as-tu acheté le revolver ? Mais je suis venu ici pour te l'apprendre, mon cher maître. Je ne t'ai jamais menti. Je suis sorti de la petite maison de Passy, le plus malheureux des hommes, accablé par la fatalité et persuadé qu'Ivana y avait été amené par la force même des événements dont je ne sentais responsable qu'une seule personne au monde. » Contre celle-là qui avait sacrifié à sa chimère mon bonheur et la vertu d'Ivana, j'avais une haine rouge. J'ai acheté ce revolver dans l'embrasement de ma douleur pour tuer Thérèse Boulanger. J'étais fou, mais logique, car elle était la cause de tout. Je me rendis chez elle, mais je m'arrêtai à mi-chemin. L'accès était passé. Un immense dégoût de toute chose m'avait envahi, et quand, en rentrant chez moi, j'y trouvais cette pauvre Thérèse, qui ne savait encore rien, mais cependant toute pâle, de la même douleur que moi, et me parlant des rendez-vous chez le docteur Challes, je ne pus que la plaindre à l'égal de moi-même. Bon, je la rudoyais un peu. C'était fini, je m'étais reconquis. Je te laissais partir avec elle. Je n'avais plus que la force de t'attendre pour te confesser ma misère et mon néant. Voilà, mon pauvre vieux, pourquoi ayant trouvé un armurier sur mon chemin, j'avais acheté un revolver. Ce dut être un spectacle bizarre que l'instant qui suivit cette confidence. Si le domestique était entré, il eût pu me voir embrasser le facteur. Rouletabille ajusta sa barbe, son képi, sa boîte et prit congé. Je te quitte, ton domestique finirait par trouver bizarre cette conférence avec le facteur, un facteur nouveau qu'il n'a jamais vu. L'autre est malade, paraît-il, mais comme il pourrait arriver tout de même, oh, je me sauve. Et il partit en me recommandant de sortir du palais le lendemain par l'escalier du quai des Orfèvres, ce qui déjouerait toute filature, et de venir le retrouver chez un bistrot de la rue de Charonne, dont il me donna l'adresse. J'arrivai là le lendemain à la nuit tombante. C'était une petite boîte intitulée « À la peau de lapin ». Il n'y avait pas de client. Une vieille femme qui tricotait avec acharnement derrière le comptoir ne me posa aucune question. Dans l'ombre d'une petite salle basse adjacente, je distinguais, accoudé à une table, mon facteur. On ne nous dérangea pas, nous pûmes causer. « Tu comprends, » me dit tout de suite Rouletabille, « que je ne pouvais plus rester en prison. Avec cette histoire du revolver, tout se tournait contre moi et par conséquent contre elle. Bon, ce qui me concerne, l'affaire m'est parfaitement égale, mais je ne veux pas que l'on continue à croire que je l'ai tué parce que je l'ai cru coupable. » Je ne l'ai pas tuée, elle était innocente. Voilà ce qu'il faut que je fasse éclater aux yeux de tous. Je ne vais pas non plus laisser cet assassinat impuni. L'être ou homme, femme qui a abattu ma petite Ivana comme une chienne d'amour, y passera, oh, je te le jure. Mais où donc te caches-tu, lui demandai-je, tu dois manquer de tout. Non, non, je ne manque de rien. Tu dois avoir besoin d'argent, j'en ai apporté. J'en manque pas, donne toujours, on ne sait pas ce qui doit arriver. Je lui passai les 5000 francs que j'avais apportés à tout hasard. Il me conta alors, en quelques mots, qu'il était caché chez un facteur du quartier auquel il avait rendu le gros service de bien placer son fils dans les services d'électricité de l'époque. Avec ce costume-là et son postiche, il pouvait se promener partout, même en plein jour, sans courir aucun risque. Enfin, depuis le matin, il n'avait d'autre déguisement sous la main. « N'ai pas perdu mon temps, me dit-il. Tu sais pas où j'ai passé une partie de la nuit dernière ?» Il avait quitté la prison à 10 heures du soir la veille. « Ah, ma foi, non. Eh bien, dans la petite maison de Passy. » Oh, je n'ai point découvert autre chose du reste que ce que j'y avais vu devant le juge d'instruction. Mais tu as déclaré n'avoir rien vu. Oh, j'avais mes raisons pour cela. Tu trouves pas que la police ait une attitude bizarre dans cette affaire? Non, en quoi? Ah, en quoi? Bien, tu te rappelles ma question à M. Hébert relativement à Marius Poupardin, le barbier de l'avenue Rameau? « Oui, parfaitement. Il t'a répondu... Non, non, pardon, ce n'est pas lui qui m'a répondu. C'est un agent de la sûreté, un nommé Page, un type que j'ai été étonné de trouver là, du reste, car je sais qu'il a été mêlé à de bien louches besognes. Et on l'emploie plus souvent à certaines enquêtes secrètes et politiques. Alors Page a répondu carrément que la boutique avait été fermée la veille du crime. Eh bien, c'est faux! La boutique a été fermée le lendemain du crime. Alors, c'est idiot ce que Page a dit, car enfin la vérité ne saurait être difficilement rétablie. Évidemment. Mais la police secrète aura gagné du temps. Pareil qu'elle en a besoin. Il y a donc de la politique dans cette affaire. Il y en a un côté, exprima Rouletabille. Et maintenant, je vais te dire ce que j'ai découvert dans la villa. En étudiant bien le petit escalier de service, j'y ai retrouvé non seulement les traces descendantes très effacées, celles-ci à peine visibles, tandis que les traces montantes étaient beaucoup plus marquées, ce qui attesterait qu'elles auraient été faites par des pieds humides encore de la terre ou plutôt de la bouse du jardin. Ivana était donc redescendue. Ivana est arrivée par la porte de l'impasse, la roche, et je te le prouverai tout à l'heure. Puis elle est descendue, après le rendez-vous, par l'escalier de service, d'où les légères traces descendantes, et elle s'en allait par l'allée aboutissant à la porte dérobée, quand elle s'est ravisée, et qu'elle est remontée par l'escalier de service. Traces marquantes, toutes fraîches du jardin. Mais pourquoi s'en retournait-elle par cette allée de service? Première question, à laquelle je répondrai plus tard quand elle aura cessé dans mon esprit de n'être plus qu'une hypothèse. Et pourquoi Ivana est-elle remontée? Seconde question, à laquelle je vais répondre tout de suite, parce que, mon cher, le drame était déjà commencé là-haut. Et qu'il faisait du bruit, le drame. Ah, il y avait donc une tierce personne. Oui, comme tu dis si bien, une tierce personne. Mais la preuve, rappelle-toi avec quel soin je me suis attardé à relever les traces de pas dans l'allée du milieu, celle qui joint la porte de l'impasse La Roche à la façade du pavillon. Oui, bon, on n'y a trouvé aucun pas de femme. Alors la tierce personne était donc un homme? Non, c'était une femme. Ah, comprends plus. As-tu déjà regardé marcher les femmes dans la rue quand il pleut ou qu'il fait mauvais? Évidemment, et j'ai admiré bien souvent le talent de ces dames à garder des bottines immaculées quand nous autres hommes. Eh bien, rappelle-toi qu'il avait plu et que l'allée du milieu était détrempée. Une femme un peu élégante devait hésiter à y mettre le pied, mais cette allée est bordée par deux bandes de briques moussues, où j'ai retrouvé, moi, des empreintes restées invisibles pour les autres parce que les autres ne les cherchaient point. Et là, ici, je reconnaissais bien le fameux système de Rouletabille, qui était de partir d'une idée juste, nécessaire. Une idée qui s'imposait fatale en quelque sorte, pour de là chercher les traces qui devaient corroborer cette idée-là. En quoi son système différait de la méthode inductive de tous les Sherlock Holmes, qui sont victimes des pistes ou empreintes qu'ils rencontrent par hasard, et qui les conduisent où elles veulent, c'est-à-dire à une erreur, souvent édifiée à l'avance par les intéressés. Or, continua Rouletabille, ces empreintes sont des empreintes de femmes. J'y ai trouvé le pied d'Ivana et aussi un autre pied plus long, plus solide, enfermé dans une bottine à la pointe aiguë, genre américain. Mon Dieu, soupirai-je en me rappelant la façon qui paraissait excentrique alors, car tous les bottiers faisaient encore les bourrons, dont étaient chaussées certaines dames l'été précédent à Deauville. Voilà qui expliquerait bien des choses, malheureusement. Rouletabille m'interrompit, poursuivant son idée, ou plutôt son exposition. Ces pas-là dans le jardin allaient et revenaient par le même chemin. Et ces pas-là, tu comprends qu'ils ne venaient pas pour rien? Or, je n'en trouve plus trace dans la villa, si léger soit-il. Je ne peux pas douter qu'ils y auraient laissé leur empreinte avec l'humidité du dehors. La preuve, c'est que j'ai retrouvé sur l'escalier du vestibule la trace à trois reprises de la bottine d'Ivana, trace qui a échappé d'autant plus facilement à l'instruction que celle-ci ne l'y cherchait pas. C'est toujours la même chose. Les traces des pas d'Ivana avaient sauté aux yeux de ces messieurs dans l'escalier de service. Oh, ils avaient immédiatement bâti leur système là-dessus. Pourquoi voir dans l'escalier du vestibule une trace de pas qui gênait leur petite combinaison? Voilà des années que je m'efforce d'apprendre à ces gens-là de se laisser conduire par le bon bout de la raison. Bon, j'y ai renoncé. Alors, revenons à mes pas pointus que je ne retrouve pas dans la villa. Et il y a une façon d'expliquer cette disparition, c'est d'imaginer que ces pas ne voulaient pas être entendus. Alors, les souliers sont ôtés et remis, la besogne faite. Mais horrible, frissonnai-je. Oh, ce n'est qu'une idée, ne tombons point dans le défaut de ces messieurs de la police et du parquet, repartit Rouletabille. Mais c'est une idée possible qui vaut qu'on s'y arrête, bien qu'elle ne m'empêche point d'en avoir d'autres. Je comprends où va ta pensée, repris-je. Malheureusement, rien ne te dit que ces pas sont venus dans le jardin au moment qui nous intéresse. C'est ce qu'il nous reste à savoir, murmura Rouletabille. Je repris encore en me penchant à son oreille. Mais j'ai fait, moi, une enquête de ce côté-là. J'ai appris d'une façon certaine que Teodora Luigi avait quitté Paris à 1 heure de l'après-midi le jour du drame, avant le drame. Elle a quitté Paris, oui, le jour du drame, à 1 heure de l'après-midi, ricana affreusement Rouletabille, comme Marius Poupardin a fermé boutique la veille du crime. Mais qui t'a si bien renseigné, Sinclair? Je l'ai su au palais par l'entremise de Giraud, le greffier de la 9e, qui est intime avec le sous-chef de la sûreté. Mais que voilà un service admirable! On savait que la question venait de toi? Probable, oh mon pauvre Sinclair, fit Rouletabille. Pardon, fis-je un peu vexé. J'ai déjà dit que j'étais d'un caractère assez susceptible, surtout avec Rouletabille que j'avais connu si jeune. Pardon, je suis allé moi-même à la gare et le renseignement était exact. Et qu'est-ce que tu as appris à la gare? Ben que Parapapoulos était bien parti par l'Orient Express de 1 heure ce jour-là, le mardi. Et alors? Eh bien, mais alors, comme Teodora Luigi est partie avec Parapapoulos? Non, elle n'est pas partie avec Parapapoulos. Elle n'est allée le rejoindre que le lendemain, le mercredi. Tu es sûr de cela? Ben aussi sûr que Marius Poupardin, le jour du drame, n'avait pas encore fermé boutique. Ah, mais la sûreté nous ment. Il y a autour de Teodora Luigi un étrange mystère. Ce n'est du reste pas la première fois que je m'en aperçois. Tu comprends maintenant pourquoi je n'ai rien dit au juge d'instruction de ce que mes yeux avaient pu voir devant lui? Il faut que mon système soit bien solide avant que je le montre, car je suis assuré maintenant qu'il y a beaucoup de gens intéressés à le jeter par terre. C'est affreux, soupirai-je. Comment pouvons-nous penser que ces gens-là puissent aller jusqu'à te perdre et t'en sachant innocent? Bon, d'abord, il n'est point sûr qu'ils me sachent innocent. Et puis, si tu crois que l'on se gêne quand on fait de la haute police... À ce moment, nous fûmes interrompus par un bruit de pas dans la salle à côté. « Bonsoir, ma tante !» fit une voix de Rogom. Et brusquement, la porte de la pièce où nous nous trouvions fut poussée, et deux personnages, que nous distinguions à peine dans l'obscurité, s'avancèrent sans cérémonie. Je serrai avec inquiétude la main de Rouletabille, qui restait impassible. Il faisait si noir que l'on n'y voyait pas plus que dans un four. Tout de même, on peut allumer la lampe, fit la voix de Rogom, et l'on entendit craquer une allumette. J'aperçus aussitôt deux figures sinistres. Il était coiffé d'une casquette enfoncée jusqu'aux oreilles. Un bout de cigarette pendait à sa lèvre inférieure. C'était le gigolo dans toute son horreur. J'avais froid au cœur. Le géant s'assit sans cérémonie aucune à notre table en face de nous. Il me tendit la main et, cessant de déguiser sa voix, « Eh bien quoi, monsieur Sinclair, vous ne me reconnaissez pas ?»« L'accordeur ! » m'exclamai-je. « Chut, on ne peut rien vous cacher, » fit le brave garçon. Et sans plus s'occuper de moi, il se mit à s'entretenir avec Rouletabille. Je savais combien celui-là lui était dévoué, comme il l'avait suivi dans les pires aventures, reconnaissant comme un chien fidèle de la niche de la pâtée que Rouletabille lui avait fait avoir à côté de lui au journal L'Époque, dans un moment où, venu à Paris pour faire de la littérature, oui, la candeur avait été instituteur, il mourait quasi de faim. Je l'entendis souffler à Rouletabille. « Du nouveau, la boutique de Marius Poupardin est ouverte, mais il a vendu son fonds, et c'est son commis qui lui succède. » En vérité, fit Rouletabille, visiblement heureux de la nouvelle, Poupardin prend de la distance. Oui, il irait s'établir à Marseille, cité qui lui a donné le jour, qu'il faudrait pas autrement s'en étonner. Voilà tout ce que j'ai pu savoir. Ben, c'est déjà beaucoup, ça, mon vieux Lacandeur. Poupardin a donc subitement fait fortune. Ben, probable. Et l'empreinte? Ah, ben, Vladimir va t'en donner des nouvelles. Ainsi, le joli monsieur qui accompagnait Lacandeur n'était autre que l'illustre Vladimir, dont j'avais entendu tant parler, qui avait partagé avec les deux reporters de si curieuses aventures au cours de la guerre des Balkans. Un très joli garçon, d'une moralité au-dessous de tout, mais brave, et capable d'un dévouement à toute épreuve, lui aussi, pour Rouletabille. Enfin, je n'ignorais pas que dans le moment, veuf d'une vieille dame millionnaire qui avait trahi ses espérances lors de l'ouverture du testament, il courtisait, pour le bon motif, une jeune artiste endiamantée du théâtre des Capucines, éblouie par le chic d'un fiancé qui prétendait descendre d'une des plus nobles et des plus riches familles de Kiev, à laquelle la paix du monde et la ruine du bolchevisme allaient incessamment rendre son antique prospérité. En attendant, Mademoiselle Michelette des Capucines lui payait ses cigarettes. Vladimir s'était absenté, et remontait de la cave chargée de bouteilles à la grande satisfaction de la candeur. « La vieille t'a vu ?» demanda le géant effaré. « Bon, les femmes ne savent rien me refuser !» laissa tomber le jeune slave avec une charmante négligence. « Tu fais la cour à ma tante ?»« Non, mes amis, interrompit Rouletabille, vous dégusterez le bourgueil de Madame Peau de Lapin quand je serai parti. En attendant, je t'écoute, Vladimir. » Le séduisant apache ne se fit pas répéter. Sans plus s'occuper du précieux liquide laissé à la garde de la candeur, il sortit de la poche intérieure de son veston un élégant portefeuille, récent cadeau de son aimable fiancé, et en fit glisser une feuille de papier découpé qu'il étala sur la table. Ceci était la mesure, me fut-il expliqué, de l'empreinte que Rouletabille avait prise lui-même la nuit précédente dans la petite maison de Passy. Eh bien, et la mesure du pied de Théodora, tu me la portes ? Interrogea anxieusement Rouletabille. Ma foi non, monsieur, répondit Vladimir, qui, malgré bien des aventures communes, n'avait jamais tenté de franchir du côté de Rouletabille les bornes d'une très respectueuse camaraderie. Il y avait quelques honnêtes raisons à cela. Mais ne vous fâchez pas, je crois avoir fait mieux. Voici ce que je vous amène. Et d'une autre poche, il sortit un élégant soulier de ville, qu'il appliqua sur la découpure de papier. « Voyez comme cela s'adapte !» fit-il observer avec une orgueilleuse satisfaction. « Et ce soulier appartient à Teodora Luigi ?» interrogea Rouletabille haletant. « Monsieur, il ne lui appartient plus. Cette belle personne en a fait cadeau il y a quelques semaines à sa femme de chambre. Je dois même dire que la générosité de Théodora est allée jusqu'à lui abandonner la paire. La femme de chambre de Théodora n'en a pas été plus reconnaissante envers sa maîtresse, car vous savez qu'elle a abandonné récemment son service, devenu difficile et peu réjouissant, pour devenir la femme de chambre de Mademoiselle Michelette, qui veut bien avoir quelque bonté pour moi. Et à propos, monsieur, je crois pouvoir vous annoncer que mon mariage avec cette jeune artiste pleine d'avenir est une chose décidée. Je te souhaite beaucoup de bonheur, jeta Rouletabille, en mettant dans sa poche le soulier à la découpure. Tu as bien travaillé, mon garçon. Et se tournant vers moi, Sinclair, tu vas nous quitter, soit ici après-demain soir à 11 heures. Ça n'est pas trop te demander. Je ne crains qu'une chose, fis-je, c'est d'être suivi et de te créer des incidents fâcheux. Non, rends-toi ostensiblement la générale de la Renaissance. Invite des amis, je te ferai parvenir une loge. Pendant l'entracte, va dire un petit bonjour de ma part à Corlin la Parcerie. Sors par le boyau de la rue de Bondy. Un taxi auto dont le chauffeur ne sera autre que l'accordeur t'attendra. Évidemment, je ne t'engage pas à raconter à ton bâtonnier la façon dont tu t'y prends pour donner tes consultations. Oh, fis-je, la vie est devenue beaucoup plus facile au palais depuis la mort de ce pauvre monsieur Cresson. Là-dessus, je lui serrai la main avec une grosse émotion et nous nous quittâmes. Au moment où je refermais la porte, je l'entendis qui disait à la candeur et à Vladimir « Ben, nous voilà en guerre à mort avec la tour pointue !» Chapitre 17 Nouvelles hypothèses. Je rentrais chez moi sans incident, mais ces dernières paroles me poursuivirent toute la nuit. La fatalité qui s'était acharnée si affreusement sur Rouletabille dans cette mystérieuse affaire redoublait singulièrement ses coups. Il ne s'agissait plus maintenant, pour mon malheureux ami, de combattre une erreur, mais de se mesurer tout seul dans l'ombre où il était traqué, avec la toute-puissance d'une police secrète intéressée à maintenir cette erreur coûte que coûte par tous les moyens visibles et invisibles dont dispose la raison d'État. Théodora était une terrible femme, mais ce devait être aussi, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, une admirable espionne rendant au pays des services tels qu'il était inconcevable que ceux-ci pussent être interrompus par un fait divers si important fut-il. Certes, la police devait vivre avec cette redoutable courtisane aux passions ardentes, des heures difficiles, mais quoi ? N'était-ce point pour cette police une manière de payer ce rare instrument que de couvrir les écarts de la femme et de la garer du scandale, même et surtout lorsqu'elle en sortait les mains rouges? Dans cet ordre d'idées, j'en avais trop vu ou trop deviné, moi qui vivais depuis 30 ans dans l'ombre de la tour pointue, pour m'étonner de rien. Ainsi donc m'apparut le rôle de Théodora Luigi après mon dernier entretien avec Rouletabille. Il prenait une ampleur telle que j'en fus épouvanté. Malgré toutes les expériences passées où nous avions vu Rouletabille triompher des pires épreuves, je redoutais qu'il ne fût bientôt broyé dans cette affaire où il pesait si peu. Avec quelle anxiété le surlendemain, en me jetant dans l'auto qui m'attendait au fond des ténèbres de la rue de Bondy, je demandai des nouvelles de mon pauvre ami. La candeur me répondit que sa santé était toujours excellente, mais qu'il était revenu de voyage avec du nouveau qui fichait tout par terre. Là-dessus, le brave garçon ferma la porte et j'eus le temps de me creuser encore la cervelle jusqu'aux bouges de la rue de Charonne. Là, je n'eus pas le temps de descendre. Un coup de sifflet se fit entendre dans la nuit et Rouletabille sauta dans l'auto à côté de moi. Filons, il y a du pain ce soir. Faudra choisir un autre quartier général. Et penché à la portière, il jeta à la candeur en zigzag au coin du quai de la place Saint-Michel. Nous sommes suivis? Interrogeai-je. Oui, fit-il en haussant les épaules, par Vladimir. Je respirai. Il commença tout de suite. Je reviens du Havre. Oh, du Havre, qu'est-ce que tu allais faire au Havre? Ben, j'avais appris que Theodora Luigi avait fait un court voyage avant le crime. J'ai vu, moi, Theodora Luigi à l'Opéra Comique le samedi qui a précédé le drame, où elle était en service commandé auprès de Parapapoulos, mais le lendemain matin, lâchant tout, au grand affolement du reste de certaines personnes, elle partait pour le Havre et venait s'enfermer à Sainte-Adresse, où elle déclarait à la mère Merlin, la gardienne de la ville fleurie, que quoi qu'il arrivât, elle n'y était pour personne. Théodora avait gardé en location la maison de la falaise et venait s'y enfermer avec ses souvenirs. Paraît qu'elle avait une figure de morte, qu'elle n'a vécu depuis le dimanche que des fruits et de pommes, mais qu'aucune lettre n'est arrivée qui l'a rendue soudain à la vie. Une heure après la réception de cette lettre, le lundi soir, elle reprenait le chemin de Paris, rayonnante, méconnaissable. La gardienne n'en revenait pas. Or, le mercredi, lendemain du drame de Passy, Tamar, l'agent de police secrète que nous retrouvons partout, arrivait au Havre et mettait tout sens dessus dans la villa Fleury. Il s'agissait de retrouver la lettre que Théodora avait reçue et qui lui avait fait quitter Sainte-Adresse si précipitamment. La dame, dans son affolement, l'avait oubliée. Sans doute, la missive avait quelque importance. Or, cette lettre que Tamar n'a pu retrouver, car il la cherchait mal, comme si on l'avait rangée et non comme si on l'avait perdue, cette lettre, je l'ai retrouvée, moi, non dans la villa, mais devant la villa, dans le fossé de la route. Elle a dû glisser du gant ou du manchon au moment où Théodora montait en auto. La voici. Et il sortit de son portefeuille un papier froissé mais soigneusement plié. Bon, je ne peux pas lire dans cette obscurité, fis-je, tu dois la savoir par cœur. Mais je voudrais que tu la voies, insista-t-il. Et soudain, sur le papier, jaillit le rayon d'une petite lanterne sourde. Mais ça, mais c'est l'écriture de Roland Boulanger, m'écriai-je aussitôt. Elle était en effet les plus reconnaissables, hautement bâtonnante, avec de singuliers petits crochets comme des paraphes à toutes les lettres majuscules. Lis! Et je lus. Mon adoré, arrive vite. Je ne peux plus me passer de toi. Je ne vis plus que de toi. L'amour, la mort, tout ce qu'on voudra, mais dans tes bras, à toi. Le reste ne compte pas. Mardi, Passy. À notre heure, sois exact, je compterai les minutes. Ton Roland. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Interrogea froidement Rouletabille. Ben, mon Dieu, balbutiai-je, toutes mes idées sont brouillées. J'aurais besoin de réfléchir. Oh, ce papier est si inattendu! Mais dis donc ce que tu penses, exclama Rouletabille. Dis donc, puisque c'était avec Théodora que Roland avait un rendez-vous ce mardi-là à Passy, la tierce personne qui est venue si tragiquement troubler le rendez-vous, c'est Ivana. L'argument était si nécessaire que je ne savais que lui répliquer, cependant. Mais c'est elle qui a été assassinée, fis-je, je ne l'oublie pas. Mais ce n'est point la première fois, reprit Rouletabille en ricanant affreusement et en continuant de se faire l'avocat du diable. Ce n'est pas la première fois que les porteurs de mauvais desseins se trouvent finalement en être victimes. L'arme qui venait de supprimer tout d'abord Roland n'était point attachée au poignet de l'intruse. Et la belle Théodora n'est point une agnelle à l'abattoir qui attend le coup qui va la frapper en tremblant sur ses pattes. Et comme tout s'explique, cette balle dans le plafond n'atteste-t-elle point la lutte? Et ce poignet froissé, cette main déchirée? Allons, messieurs, n'insistons pas, acheva le terrible homme comme s'il parlait à un jury déjà convaincu. Passée de cette main délébile dans le poignet vengeur de Théodora, l'arme a eu vite couché la coupable à côté de sa victime. Après ce coup heureux, Théodora n'avait plus qu'à filer, ce qu'elle a fait du reste avec empressement. Et vous, messieurs, vous n'avez plus qu'à m'acquitter, roule-moi, Rouletabille. Merci, Sainclair, acheva le malheureux en me resserrant atrocement la main. À ce moment, la voiture stoppait et Rouletabille me jetait carrément dehors. Je me trouvais sous linceul sur un trottoir. Je m'orientais un peu éperdu. J'étais place Saint-Michel, à quelques pas de chez moi. Chapitre 18. Étrange aventure de Rouletabille dans un sleeping-car. Le lendemain, je fus averti par la candeur du départ de Rouletabille pour Marseille. Je compris qu'il continuait à marcher à fond contre la dangereuse amie de Palapapoulos. Il s'agissait de toute évidence de retrouver le barbier du coin de l'impasse de la Roche, car Marius Poupardin devait en savoir long sur ce qui s'était passé cet après-midi-là dans la petite maison de Passy. Je dis à la candeur qui s'était arrangée pour me rencontrer par hasard au palais, eux, ils ne le laisseront pas arriver jusqu'à Poupardin. Oh, je crains tout. J'apprendrai demain que Rouletabille est mort d'un accident que je n'en serais pas surpris. Comme en disant cela, j'avais les yeux humides, la candeur, qui était lui-même fort inquiet, tenta de me rassurer. Il n'a pas voulu que je l'accompagne là-bas, ma sacrée taille. Il prétend que c'est elle qui nous a vendus. Savez-vous bien que lorsque vous êtes venu hier rue de Charonne, il y avait 24 heures que ces messieurs étaient au courant. Ils auraient pu l'arrêter s'ils avaient voulu. Oh, ils ne l'ont pas fait. C'est ce qui me fait espérer que tout cela va s'arranger. Dieu vous entende, soupirai-je, mais c'est bien parce qu'ils ne l'ont point arrêté que vous me voyez dans de pareilles transes. Pendant ce temps, les événements les plus curieux se déroulaient autour de Rouletabille. Son voyage en sleeping est une chose certainement unique en son genre, et j'en donnerai tout de suite le récit tel qu'il me le fit plus tard. Pendant sa période d'évasion, Rouletabille trouva une aide efficace chez tous ceux qui l'avaient obligé. Parmi ceux-ci, il y avait un monsieur Teulat, garçon fort distingué, entré sur le tard dans la carrière consulaire et que Rouletabille avait fait nommer consul à Barcelone. Ce monsieur Teulat, de passage à Paris, devait rejoindre son poste le lendemain de la dernière visite que je fis à Rouletabille, dans les conditions que l'on sait. La place de monsieur Teulat était retenue au wagon-lit. Il allait à Barcelone par le PLM et Portbou, changement de train à Avignon. Le soir, à 8 heures, Rouletabille était à la gare de Lyon avec les papiers de M. Teulat et tout ce qui pouvait faire croire qu'il était M. Teulat lui-même, c'est-à-dire une jolie perruque aux boucles grisonnantes, une superbe moustache noire, un binocle en or, des talonnettes dans ses chaussures qui le grandissaient, un ample pardessus qui l'arrondissait et une casquette de voyage à carreaux. Cette fois, il croyait bien avoir dépisté la police. Il arriva 2 minutes exactement avant le départ du train, son sac de voyage à la main, et se hâta vers son wagon. Comme il allait l'atteindre, il aperçut de dos une silhouette qui lui parut être celle de l'agent Tamar. Il se glissa dans son compartiment sans être aperçu du policier. Puis revenant dans le couloir du wagon, il jeta un coup d'œil sur le quai. Il vit l'homme de profil et ne reconnut plus Tamar. Décidément, l'idée de Tamar le poursuivait, et cela n'avait rien que de très naturel. L'homme, du reste, ne prêtait aucune attention aux voyageurs, mais bavardait assidûment avec un grand escogriffe. Enfin, dans le sens de l'origine du mot « jambe » en arc, au long bras, au dos légèrement voûté, l'allure tourmentée, le tout couronné par une grosse tête rose, toute rase, aux yeux très doux, calmes et pensifs, aux cheveux blonds filasses, coiffé d'une casquette à carreaux. J'ai dit que Rouletabille ne reconnut pas Tamar, mais il fut instantanément persuadé qu'il avait déjà rencontré le grand escogriffe quelque part. Le train partait. Rouletabille ferma la porte de son compartiment, heureux de constater qu'il n'aurait pas apparemment de compagnon et décidé à sortir de cette boîte le moins souvent possible. Malheureusement, la porte se rouvrit presque aussitôt et il vit entrer l'escogriffe, suivi de l'employé des wagons-lits qui lui portait son sac. Et maintenant, je laisse la parole à mon ami. À ce moment de ma lutte avec la police, a raconté Rouletabille, une chose me donnait quelque tranquillité. On aurait pu m'arrêter depuis la veille, pourquoi ne l'avait-on pas fait ? Je pouvais répondre presque affirmativement que c'était que l'on ne savait porteur de la lettre de Roland de Théodora à Luigi, lettre cherchée vainement par Tamar à la Villa Fleury, trouvée ensuite par moi et si terriblement compromettante pour Théodora. Tant que j'aurais sur moi ce papier, qui mêlait si tragiquement la célèbre courtisane, instrument de la haute police, au drame de la petite maison de Passy, j'étais assuré que l'on ne me mettrait point la main sur moi. Je pouvais faire trop d'esclandre avec ce papier et retourner l'affaire d'une façon décisive. C'était mon meilleur sauf-conduit. Il fallait avoir le papier d'abord, on m'arrêterait ensuite. Je croyais bien qu'ils m'eussent plutôt fait tuer que de me prendre vivant avec ce document dans ma poche. Tout de même, comme je pensais qu'ils en arriveraient là qu'à la dernière extrémité, s'ils s'y résolvaient jamais, cela me laissait quelque liberté d'esprit, d'autant plus que depuis la veille, je pensais avoir réussi à semer définitivement ces messieurs. Or, la vision de l'homme qui ressemblait à Tamar, suivie de l'entrée de son compagnon dans mon compartiment, me redonna à réfléchir. Tamar pouvait s'être déguisé, grimé, comme je l'étais moi-même. Enfin, ce singulier voyageur ne m'était point inconnu. Il salua, s'installa, me fixa tranquillement de ses yeux doux et me demanda la permission de relever la glace. Je reconnus aussi sa voix, que je n'avais jamais certainement pas entendue depuis très longtemps. Il avait un léger accent belge, mais où donc? À ce moment, l'employé du wagon-restaurant passa en annonçant le premier service. Bien que je n'eusse point pris de ticket, je me levai aussitôt. J'avais besoin d'être quelques instants loin de cet homme pour mieux y penser. Je me glissai dans le corridor. J'étais dans un de ces soufflets qui relient entre les wagons quand une légère secousse me rejeta sur l'un des voyageurs qui se rendait comme moi au restaurant. Je m'excusai en tournant légèrement la tête. C'était l'escogriffe. Arrivé sans autre incident à destination, j'attendis que mon suiveur fût installé pour m'asseoir à une autre table, mais toutes les places étaient retenues à l'exception de celle qui se trouvait en face de lui. Décidément, je n'avais pas de chance. Non seulement j'étais condamné à dormir avec cet homme, mais encore il me fallait dîner en face de lui. Quoi qu'il fît pour jouer de l'indifférence à mon égard, il m'était de plus en plus suspect. Je m'assis et déployai ma serviette. Et dans le moment, j'eus ce geste instinctif qu'ont les porteurs de grosses sommes qui tâtent du gras du bras à leur poitrine pour s'assurer que le matelas y repose toujours. Or, j'eus la révélation nette que déjà, je n'avais plus mon portefeuille. Le portefeuille dans lequel j'avais mis la lettre de Roland Boulanger à Théodora Luigi. À la minute même, un nom passa en lettres de feu dans ma mémoire, Léopold Drac. Et je revis la scène datant d'une dizaine d'années. Dans une petite pièce de la préfecture où étaient réunis une trentaine d'agents et quelques hauts personnages de l'administration amusés par une exceptionnelle conférence de ce Léopold Drac, un des plus habiles pickpockets qui ait jamais existé, ayant fait fortune en Amérique, retiré des affaires, dévoilant bénévolement tous ses trucs, faisant servir son expérience à la défense de la propriété, après avoir mis celle-ci au pillage. C'était charmant et ahurissant comme une séance de prestidigitation bien réussie par un maître élégant qui accomplit les tours les plus compliqués sans qu'on puisse soupçonner le moindre effort, avec le sourire. Seulement, Léopold Drac ne souriait pas. Il vous parlait. D'un ton monotone et traînant, il vous racontait n'importe quoi, vous posait les plus extraordinaires questions qui vous surprenaient par leur banalité même, et vous aviez la poche vide avant que vous ne lui ayez répondu. Entre-temps, il ne vous avait pas quitté les yeux, fixant sur vous son doux regard tranquille, un peu stupide. Il vous avait offert une cigarette ou vous avait demandé du feu ou encore l'heure qu'il était. Averti par un ami de la sûreté, je m'étais glissé dans cette salle sans que personne ne me prêtât la moindre attention, et j'en étais sorti sans que Drac eût eu l'occasion de m'apercevoir. Et c'était cet homme que l'on avait lancé sur moi. Sa besogne était déjà accomplie. Oh, ça n'avait pas été long. J'étais perdu. Cependant, le ressort qui est toujours en moi dans les instants les plus critiques ne me fit point défaut. Rien ne put trahir ma consternation, je pourrais écrire mon désespoir. Je me mis à dîner de fort grand appétit et, mon Dieu, la conversation s'engagea le plus naturellement du monde. Nous nous trouvâmes d'accord sur les moindres sujets, et nous nous découvrîmes les mêmes goûts pour l'ancien opéra comique. Sans faire déjà une paire d'amis, nous nous supportions fort aisément. On s'était présenté. Il se disait représentant d'une grande maison de champagne, et il voulut que je goûtasse à sa marque que j'appréciais en connaisseur. Il régla même l'addition avant que je pusse m'interposer. Du reste, je n'insistais point. car je venais de m'apercevoir que je n'avais point suffisamment de monnaie dans mes poches et qu'il m'allait falloir chercher mon portefeuille, geste que je voulais éviter par-dessus tout. Comme sa générosité devait avoir été dictée pour beaucoup par une crainte de ce geste-là, au moins égale à la mienne, tout se passa donc pour le mieux du monde, et il put croire que je continuais d'ignorer ma déconfiture. En sortant du restaurant, j'eus grand soin de le laisser marcher devant moi, mais il y eut à la porte une légère bousculade, et je me trouvai un instant séparé de lui. Quelques secondes plus tard, j'étais à nouveau sur ses talons quand il pénétrait dans notre compartiment. Nous bavardâmes encore une demi-heure. Mon plan était simple. J'étais décidé, quand nous nous trouverions enfermés là-dedans pour la nuit, à lui mettre mon revolver sur la tempe et à exiger la restitution de mon portefeuille. Mais il en alla tout autrement, comme vous allez voir. Et ma foi, ce fut tant mieux, car un geste brutal qu'il avait dû prévoir aurait peut-être tout perdu. D'autant plus qu'il pouvait s'être débarrassé de mon portefeuille après s'être emparé de la lettre. J'en étais là, dans mes réflexions, quand je sentis que mon portefeuille était revenu dans la poche de mon veston. Ainsi, il s'était débarrassé de mon portefeuille, mais dans ma poche. Je n'avais plus rien à dire. Mais la lettre, maintenant, où était-elle? Eh bien, elle devait être dans son portefeuille à lui. Je ne désespérais plus de rien, car enfin, j'avais maintenant un avantage sur mon pickpocket. C'est qu'il croyait que j'ignorais que j'avais été volé. Excellente situation pour le voler à mon tour. Je crois avoir joué là une des plus fines parties de ma vie, mais dans cette partie, le masque de parfaite et presque niaise sécurité que je posais si hermétiquement sur ma folle inquiétude ne fut pas une des choses les moins remarquables du jeu. Si bien ma foi que mon homme y fut pris. Il se coucha avant moi, car je ne voulais pas le laisser seul dans le corridor, et j'étais décidé à ne plus le quitter d'un pas. Pendu, de reprendre à quand je me déshabillais. Quand je me déshabillais à mon tour, j'eus la satisfaction de constater qu'il n'avait point pendu son veston aux patères communes. Mon voleur était couché au-dessus de moi, et je pus voir d'un coup d'œil jeté sur la glace du lavabo qu'il finissait de rouler son veston dans le filet pendu à portée de sa main dans ce que je puis appeler son alcôve. Décidément, il pouvait être plus fort que moi avec ses mains, mais au point de vue psychologique, il n'était pas très fort, l'escogriffe. 5 minutes plus tard, après avoir pris de mon côté toutes sortes de précautions, destiné à ne point les passer inaperçus, pour garer mon portefeuille dans le filet qui m'était réservé au fond de ma couchette et faire croire que j'y attachais toujours la plus grande importance, je lui souhaitai une bonne nuit et me pris à ronfler consciencieusement. Mais il ne s'endormit vraiment qu'à ma compte. Je mis tout le temps et tout le soin qu'il fallait pour m'en assurer. Mais je n'en eus vraiment la certitude que lorsque j'eus terminé ma délicate opération. Je remuais le moins possible et cependant, je n'eus de ma vie pareil sué. Ah, la décomposition lente des mouvements est un travail de géant et le pire des martyrs. Enfin, j'avais eu le veston, le portefeuille, et j'étais rentré en possession de ma lettre à notre entrée en gare de Lyon. Il était temps, car les cris des employés, les mouvements de la gare réveillèrent mon homme. Il put constater que mon ronflement n'avait rien perdu de sa régularité. Au départ de Lyon, sans qu'il se fût apparemment aperçu de rien, il se retournait contre la cloison et se rendormait. Je m'étais juré, moi, de ne point dormir. Après l'expérience du portefeuille, vous pensez bien que je n'y avais point replacé la lettre. Cette lettre se trouvait enfermée dans une double feuille et le tout dans une enveloppe à peu près dénuée de gomme et que je n'avais du reste point close, car lorsque je me trouvais seul, je ne manquais point de sortir ce document pour l'étudier plus à fond, ce qui me permettait chaque fois d'y découvrir quelque chose de nouveau. J'avais donc gardé l'enveloppe dans ma main. Ma main était passée sous mon oreiller, car j'ai l'habitude de dormir sur le ventre, les bras recourbés sous mon oreiller, comme si j'allais le dévorer. J'ai ainsi la sensation de dormir plus vite, d'en prendre le plus dans le moins de temps possible. Mais je le répète, je ne voulais pas dormir. Hélas, j'oubliais que je ne connaissais pas un lit depuis 3 jours. Depuis 3 jours, je n'avais pas mangé d'oreiller. J'avais faim. Inconsciemment, j'en goûtais un peu, puis beaucoup. C'était bon, c'était doux. Hannibal à Capoue. Je m'endormis sur ma victoire. Quand je me réveillais, les premiers rayons du soleil glissaient entre les rideaux tirés des fenêtres, et un homme en chemise de nuit était debout près de mon lit. En une seconde, je fus tout à la situation. Je m'en voulus de ma faiblesse, mais une légère crispation de ma main sur l'enveloppe que je n'avais pas lâchée me rassura. J'avais dû faire quelques mouvements en me réveillant, car l'homme en chemise de nuit disparut rapidement dans le lavabo en emportant son sac et, du reste, en faisant le moins de bruit possible. Je tâtais encore mon enveloppe. J'étais tout à fait réveillé. Et il me sembla qu'il y avait quelque chose de nouveau dans l'enveloppe, en ce sens qu'il y avait quelque chose de moins dedans. Je tente d'y glisser mon doigt. À cause de la chaleur de ma main, sans doute, l'enveloppe s'était collée. J'arrache. Il y avait bien la double feuille là-dedans, mais la lettre n'y était plus. Décidément, mon escogriffe n'était pas si simple qu'il en avait l'air, ou si dénué de sens psychologique que je l'avais cru. Il avait dû s'apercevoir à Lyon, en se réveillant et dès son premier coup d'œil sur son filet, que l'on avait touché à ses affaires et qu'il m'avait bien mis dedans en se retournant contre sa cloison et en feignant à son tour le sommeil pendant que je m'endormais pour de bon à mon tour. Matin, on était dignes de lutter l'un contre l'autre. J'avais gagné la première manche, il avait remporté la seconde. À qui la belle ? Mais la partie devenait terriblement difficile pour moi, maintenant que je savais, qu'il savait, que je savais, qu'il avait la lettre. Je n'avais pas beaucoup de temps devant moi pour la lui reprendre, si tant est que la chose fût encore possible. Je feignis bien de ne point m'être réveillé, et je me simulais le réveil que lorsqu'il réapparut, sortant du petit lavabo avec son sac. Je m'arrangeais pour qu'il ne perdît aucun de mes mouvements, ce qui était moins difficile que de les lui dissimuler, et pour qu'il m'aperçût du coin de l'œil, rangeant hâtivement l'enveloppe que je venais de tirer sous l'oreiller, comme si je continuais d'être persuadé que je possédais un trésor. Toutefois, je doutais qu'il fût pris à une aussi mince comédie. En ce qui me concernait, toutes mes facultés étaient en éveil pour deviner ce que l'autre avait pu faire de la lettre. J'avais dû me réveiller dans le moment qu'il me reglissait l'enveloppe dans la main. J'imaginais que sa brusque disparition avait témoigné de sa surprise et il ne faisait point de doute qu'il était entré dans le lavabo avec le précieux document en main. Sans quoi, quand j'avais remué pour la première fois, il n'eût point marqué cet émoi. Il était donc rentré dans le lavabo en chemise de nuit avec la lettre et avec son sac ouvert. Il en ressortit avec son sac fermé. Il y avait toute chance pour que la lettre fût dans le sac. Il se hâtait de s'habiller pour me laisser la place libre. Pendant ce temps, nous échangions ces propos du matin qui sont de rigueur entre gens qui ont passé la nuit dans la même cabine. Nous nous félicitâmes l'un l'autre du repos que nous avions goûté. Il était comme moi, le mouvement du train le berçait, et il ne dormait jamais si bien qu'en voyage. Enfin, il fut prêt, et après avoir fermé son sac à clé, il sortit. Je me jetai hors de ma couchette et fis jouer le verrou de la cabine. J'étais seul, sans surprise possible. Je me ruais sur le sac. Aucune de mes clés ne l'ouvrait, mais j'avais un petit outil avec lequel je forçais les serrures sans que je me demandasse une seconde ce qu'il adviendrait par la suite de cette effraction. Je vidais son sac, je le mis au pillage, je le tâtais sur toutes les coutures. Pas de poche secrète et pas de lettre. Il avait donc gardé sa lettre sur lui, en tout cas, il l'avait emportée avec lui. Et pas deux. Je remis en vrac toutes les affaires de ce damné drac dans son damné sac, et je jetai ce dernier dans le coin du filet où j'étais allé le chercher, puis je m'habillai en 5 minutes. Après quoi, en face de la glace, je composais mon visage, lui commandais le sourire et l'indifférence, et je rentrais dans le corridor, croyant y trouver mon homme. Mais point de drac dans le corridor. Je glissais comme une flèche jusqu'au wagon-restaurant. Drac y prenait tranquillement son café au lait. Cette fois, je ne le fuyais point, et je fus fort heureux de constater qu'une place était libre en face de lui. Je m'y assis. Il me sourit. Je lui souris. Nous avions l'air aussi contents l'un que l'autre, l'un de l'autre. Je savais qu'il savait. Il savait aussi que je savais qu'il savait. Quelle situation que celle de ces deux individus qui, depuis la veille au soir, ne cessaient de se voler mutuellement, sans que rien dans leur façon d'être ni dans leurs paroles ne dénonçât leur intime pensée, la joie de la victoire ou le désagrément de la défaite, ni l'espoir frénétique de la revanche. J'avais commandé 2 œufs sur le plat. Ils beurraient ses toasts. On approchait d'Avignon. J'avais peut-être encore 20 minutes devant moi. « Vous avez chaud ?» me demanda-t-il. « Oui, j'avais chaud. De grosses gouttes de sueur me perlaient aux tempes. Je jetai ma casquette dans le filet au-dessus de nous, à côté de sa casquette à lui. « Oh, on chauffe trop dans ces wagons de luxe, » fis-je. « Cela dépend des tempéraments, » répliqua-t-il. « Moi, je n'ai jamais trop chaud. Si vous permettez... » Là-dessus, il prit sa casquette et s'en coiffa solidement. J'étais renseigné, la lettre était dans la casquette. Le coup d'œil qu'il lui avait lancé lorsque j'avais jeté la mienne dans le filet, le soin qu'il prenait de se recoiffer aussitôt mon arrivée, et la solidité même avec laquelle l'opération avait été faite, tout le dénonçait. pour quelqu'un dont les sens étaient exacerbés comme les miens. Il n'avait même pas été difficile de percevoir dans un dixième de seconde le sentiment évident de satisfaction dans la sécurité qu'avait exprimé cette tête dès qu'elle avait été coiffée de cette casquette. Rien ne m'avait échappé, pas même le léger effort qui attestait l'étroitesse sans doute récente de la coiffe. Enfin, une minute plus tard, je lus comme dans un livre cette phrase visible pour moi seul, dans ces deux beaux grands yeux dont la placidité apparente semblait me narguer. « Elle est là, la lettre, viens donc la chercher !» Tout à coup, j'y allais. Oh, ce fut rapide comme la foudre. Je venais de payer mon déjeuner, il réglait le sien. Déjà, le train ralentissait et l'on allait entrer en gare d'Avignon. Je me levai, il était encore assis. Je pris ma casquette dans le filet. Elle était à carreaux comme la sienne. Et avec un peu de bonne volonté, on eût pu prendre l'une pour l'autre. Et tout à coup, lui jetant la mienne sur la table, je m'emparai d'un geste brusque de celle qu'il avait sur la tête. Il poussa un cri, se dressa hagard. Moi, je souriais en déclarant tranquillement « Ah, oh, je vous demande pardon, vous vous êtes trompé de casquette, monsieur. »« Jamais de la vie !» s'écria-t-il et il se jeta sur moi. Mais j'avais prévu le mouvement. Je m'étais assez reculé pour avoir mis la précieuse casquette hors de sa portée. Des voyageurs s'étaient levés, nous entouraient, intervenaient, s'amusaient de cet intermède incompréhensible et grotesque, de la fureur éclatante de ce voyageur. Oh, les yeux naguère placides lançaient des flammes, et la douce face rose était devenue comme un énorme boulet rouge prêt à porter l'incendie. Pour une casquette! Moi, j'étais de plus en plus calme, séparé du dangereux escogriffe par deux voyageurs. Et je prononçais en ouvrant la coiffe de la casquette, « Cette casquette est si bien à moi que comme elle était trop large, je l'ai garnie avec une lettre que voici. Si monsieur désire que je lui dise quels sont les termes de cette lettre, je les répéterai et tout le monde pourra constater lequel de nous s'est trompé. » Ces derniers mots eurent le don de calmer Drac instantanément. Ils furent comme un bain glacé pour le boulet rouge qui n'éclata point. L'homme regarda ma casquette sur la table, la prit et convint en bougonnant qu'il s'était trompé, que c'était bien la sienne. Il y eut des rires. Le train stoppait en gare d'Avignon. Je sautai sur le quai, mon trésor sur la tête. Quelques secondes plus tard, j'étais hors de la gare, ayant abandonné mon bagage, et pendant que Drac me cherchait dans le train de Portbou, j'avais sauté dans une auto qui, à prix d'or et à 90 à l'heure, me conduisait à Marseille. Mais vrai, j'avais eu chaud.